Bien, bonjour à tous et à toutes. Ce matin, je voudrais vous parler d'un proverbe bien connu. C'est un seul chapitre parmi les proverbes. Je vais peut-être avant parler un peu des proverbes. Est-ce que vous savez qui a écrit les proverbes? Salomon, oui. Alors, en tout cas, c'est Salomon qui signe le livre des Proverbes au début du livre des Proverbes, sauf peut-être les deux derniers chapitres qui sont a priori l'auteur de deux rois différents, mais deux rois qu'on ne connaît rien, sur lesquels on peut penser que ces deux rois sont peut-être des formes poétiques de Salomon lui-même. Donc c'est peut-être aussi Salomon qui a écrit ces deux derniers chapitres. En tout cas, Salomon a écrit tous les proverbes, probablement aussi les deux derniers chapitres. Mais le chapitre que nous allons étudier, c'est le dernier chapitre, le chapitre 31. Et il commence comme étant les paroles du roi Lémuel, dont on ne connaît rien de ce roi-là. Mais on va l'étudier en entier. Je vous propose de prendre votre Bible, donc au proverbe chapitre 31. Et on va lire tout le chapitre. Proverbe chapitre 31. Parole du roi Lémuel. Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que dirais-je, mon fils? Que dirais-je, fils de mes entrailles? Que dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes, et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi, Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. De peur qu'en buvant, il n'oublie la loi, et en ne méconnaissant les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met sa main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et que porte ses œuvres la loue. Jusque-là. Alors, si vous ne l'avez pas compris, ce proverbe 31, il est souvent appelé la femme vertueuse. Effectivement, une bonne partie de ce chapitre décrit une femme merveilleuse, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas oublier que ce proverbe, ce chapitre-là, en tout cas à partir du verset 10, donc ce qui concerne la femme vertueuse, est écrit de manière poétique, en acrostiche, comme on a vu le psaume 119, qui est écrit, chaque paragraphe du psaume 119 commence toujours par la même lettre, dans l'ordre alphabétique. Eh bien, à partir du verset 10 de ce proverbe, tous les versets commencent par la lettre suivante de l'ordre alphabétique. Et donc, c'est écrit de manière poétique, selon la manière de construire les poèmes à l'époque du roi Salomon. Alors, l'auteur, comme on l'a dit tout à l'heure, le roi Lemuel, c'est ce qui est écrit. Mais comme c'est une partie qui est poétique, on peut penser que c'est une forme poétique du roi Salomon, Lemuel signifiant consacré à Dieu ou appartenant à Dieu. Surtout qu'il s'agit de conseils pour un bon roi ou pour un bon mari. Et peut-être que Salomon a utilisé ce nom d'emprunt pour cacher le fait que lui-même ne sait pas appliquer ses bons conseils, malheureusement. Parce que, on sait bien, là, il est question de se garder, de ne pas donner sa force aux femmes, ni avouer à celles qui perdent les rois. Malheureusement, on sait bien que c'est ce qui va perdre Salomon avec son très nombreux harems. Hein, je ne sais plus le nombre de femmes et de concubines, c'est en plusieurs centaines. Donc c'est énorme. Mais en tout cas, il s'est laissé détourner les voies de l'Éternel par ces femmes, ces nombreuses femmes qu'il a eues, dont certaines l'ont entraîné dans des mauvaises voies et vers d'autres dieux. Enfin, le culte de d'autres dieux, en tout cas. En tout cas, ces conseils sur la femme vertueuse s'adressent à un roi et donc à un homme. Contrairement à ce qu'on a souvent l'habitude de penser et de dire, le proverbe 31, la femme vertueuse, ce sont des conseils pour l'homme, pour qu'il choisisse une épouse qui corresponde à ce que Dieu veut. Alors bien sûr, la femme y trouvera de bons conseils pour orienter sa vie, mais l'homme doit soigneusement l'étudier pour choisir sa future épouse. C'est aux jeunes hommes que cela s'adresse, en priorité. En effet, un peu plus tôt, le proverbe 12, au verset 4, nous précise: une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la pourriture dans ses os. C'est les caractéristiques de la femme, de l'épouse que l'homme va choisir, qui va impacter directement sa vie au quotidien. D'où l'importance d'étudier l'ensemble de ces caractéristiques que l'homme doit rechercher et que la femme doit essayer d'appliquer. Ainsi, l'appréciation du mari, les qualités du mari, vont dépendre en partie des qualités de l'épouse et de la totale confiance qu'il va pouvoir avoir en elle et elle en lui. L'un et l'autre sont interdépendants et le mari, le futur mari, le jeune homme, est appelé à étudier cela pour choisir son épouse. Cette instruction, il nous est dit également que c'est la mère de Lemuel qui lui a enseigné. C'est sa maman qui enseigne au fils pour lui dire comment est-ce qu'il doit orienter sa vie, comment il doit faire ses choix. On voit deux types d'instructions dans la Bible. Il y a l'instruction du père. Par exemple, Proverbe 1, verset 8, il est dit: écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. On a aussi au Proverbe 6, verset 20, mon fils, garde les préceptes de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. On a toujours dans les enfants cette double enseignement qui peut venir du père et de la mère, et qui doit venir du père et de la mère. Et c'est aussi pour ça qu'il est important de bien choisir son épouse, parce qu'il faut que cet enseignement concorde, qu'on ait bien le même enseignement. Dans ces deux passages que je viens de lire, et souvent on le voit dans la Bible, il y a une petite nuance néanmoins entre l'enseignement du père et de la mère. Pour le père, on parle d'instruction, de préceptes. Ce sont plutôt des cadres et des règles incontournables. Ce Ce sont des lois. Le Père donne les règles inaliénables, pardon, y arriver, que l'enfant doit suivre. Et pour la mère, on parle d'enseignement. Et dans le mot qui est utilisé, c'est plutôt, ce sont les conseils, les directives que l'on peut donner. Et dans ce passage-là, quand on voit toutes les caractéristiques de la ferme vertueuse, on peut comprendre effectivement qu'il s'agit d'un enseignement, ce sont des conseils, mais qu'il ne pourra peut-être pas trouver cette femme parfaite que l'on décrit dans l'ensemble du proverbe 31. C'est plutôt une direction, un sens qu'il doit rechercher pour essayer de déterminer si cette épouse, eh bien l'épouse que Dieu attend pour lui, ou si elle ne correspond pas à ses critères et que dans ce cas-là, ce n'est pas la femme que Dieu a prévue pour lui. D'ailleurs, en même temps, cette femme, quasiment parfaite et quasiment introuvable, puisqu'il nous est dit dès le début, au verset 10, hein, ouvre ta, pardon, une femme vertueuse, qui la trouvera? Car son prix est bien au-delà du rubis, sur la version Darby, ou des perles selon la version Second. Ça a un prix énorme. Et on peut comprendre, rien qu'à partir de ce verset, que c'est quelque chose qu'on doit rechercher, mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va atteindre. Cette perfection-là, elle ne sera pas forcément là dans tous les sens du terme, dans tous les points qu'on va pouvoir voir, mais c'est ce qu'on doit rechercher, ce sont les valeurs que l'on doit rechercher, que le jeune homme doit rechercher et que la femme, bien sûr, doit rechercher à appliquer. Une autre traduction libre, mais qui permet de respecter la première lettre de l'alphabet latin, commence comme cela, « Au-delà de la valeur du joyeux, le plus rare est le prix d'une vaillante épouse. Bienheureux son mari qui a confiance en elle, continuellement, elle lui fait du bien et non du mal. » Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé cette épouse, mais c'est Dieu qui me l'a donnée. J'ai juste à confirmer la correspondance avec sa parole. Et c'est donc en premier lieu aux jeunes que cela s'adresse. Jeunes garçons pour choisir leur épouse et aux jeunes filles comme modèle à imiter. Je vais vous proposer de découper ce proverbe en trois parties selon les trois temps de l'épouse. La première partie, sa vie avant les enfants, sa vie de jeune marié. Ensuite, sa vie de mère, ça vient inévitablement après, généralement. Et enfin, sa vie de nid vide, lorsque les enfants ont quitté le foyer et qu'il reste encore beaucoup d'activités à accomplir. Ces trois temps correspondent aux trois temps de la vie du couple et ils peuvent correspondre à l'ordre des versets, selon les deux découpages que je vous propose. La première partie, la vie sans, avec les enfants, avant les enfants, pardon, ce sont les versets 13 et 14, donc le tout début de ce passage-là. Je continue la lecture dans une version libre. Diligemment, elle cherche de quoi filer et tisser. Et tel un navire marchand, elle ramène de loin les provisions pour la maison. C'est au tout début de la vie, la jeune épouse vient de rencontrer son mari, de se marier avec lui. Ils ont quitté père et mère. Selon Éphésiens 5, verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est un passage très très fort que cette union entre l'homme et la femme qui forme un couple uni et unique, une seule chair. L'homme quitte l'instruction du père et l'enseignement de la mère et ils vont créer une nouvelle famille qui doit débuter sur de bonnes bases pour, à leur tour, prodiguer cette instruction et cet enseignement à leurs propres enfants. Le début de cette vie d'épouse, bah, ça commence par être une commerçante prospère, qui voyage, pour gagner sa vie, qui rapporte sa nourriture de loin. Elle est très active. Elle peut se permettre, elle n'a pas encore d'enfant, donc elle peut beaucoup voyager. N'est-ce pas? Elle me fait penser à Ruth, la Moabite. D'ailleurs, en Ruth 3, verset 11, Boaz, son mari, futur mari, dit: Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Et Boaz est sur le point de se marier avec Ruth lorsqu'il dit ça. Et il le fait parce qu'elle est connue pour être vertueuse. Non seulement lui a la certitude que c'est une femme vertueuse, mais elle est connue par toute la porte de son peuple comme étant une femme vertueuse. Elle a une réputation de femme vertueuse. C'est une chose extraordinaire et c'est ce qu'il faut chercher à travers tous ces voyages. Alors comment est-ce que elle a fait pour être réputée être une femme vertueuse? Alors on va lire rapidement un petit peu dans Ruth. Ruth au chapitre 2. Et on va lire quelques versets au verset 5. Excusez-moi. Ruth chapitre 2, versets 5 à 7. Donc, je rappelle le contexte. Ruth a été mariée avec un jeune Israélite qui était expatrié. Et ce jeune est décédé avant d'avoir pu avoir des enfants, ainsi que d'autres, ils avaient deux jeunes, et il y avait une autre aussi épouse de ce second fils. Le père était décédé aussi. Et Ruth a choisi de rentrer en Israël avec sa belle-mère, veuve, de suivre sa belle-mère jusque dans le pays d'Israël. Et donc lorsqu'ils arrivent en Israël, eh bien, Ruth va commencer à travailler. Et elle travaille dans les champs de Boaz. Ruth chapitre 2, verset 5. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs: À qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit: C'est une jeune Moabite, donc une étrangère, qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit: Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue et qu'elle a été debout jusqu'à présent, elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Donc j'aime bien aussi la traduction d'un verset d'Abi Darbi qui dit: Ce qu'elle s'est reposée a été peu de choses. Elle s'est très très peu reposée. Elle a beaucoup travaillé. Et on n'a presque pas vu un moment où elle a été se reposer dans la maison. Presque plus que les moissonneurs eux-mêmes. Un peu plus loin, au verset 10, lorsque Boaz veut lui suggérer de rester dans ce champ pour continuer à glaner, alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit: Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi? À moi qui suis une étrangère. Boaz lui répondit: On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Ruth n'avait pas encore d'enfant, mais elle était déjà très active. Mais surtout, elle avait confiance en l'Éternel. Ce Dieu qui n'était même pas le Dieu de son peuple, mais elle a quitté son père et sa mère, elle a quitté l'instruction de ses parents, elle a quitté son pays, elle a choisi de suivre Naomi, sa belle-mère, de rentrer dans ce pays d'Israël et de servir l'Éternel. Elle a choisi son camp. Et c'est cette confiance en l'Éternel qu'a pu voir Boaz chez Ruth et qui en fait l'épouse idéale. Certes, le fait qu'elle soit travailleuse, ça en fait une bonne épouse. Mais ce qui a encore plus de valeur aux yeux de Boaz, c'est le fait qu'elle est venue se réfugier sous les mains de l'Éternel. C'est cette confiance qu'elle a décidé de faire en l'Éternel qui fait que c'est une femme vertueuse, une femme idéale pour Boaz. Et effectivement, la Bible nous enseigne à être vigilants lorsque on va se placer sous le joug du mariage avec une épouse, à ne pas être sous un joug mal assorti. Vous connaissez bien ce verset de 2 Corinthiens 6, 14 qui dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Ici, Boaz avait la certitude que cette étrangère était fidèle à Dieu, de fait intégrée au peuple de Dieu. Tellement intégrée au peuple de Dieu que dans la généalogie du Christ, elle est citée comme étant une des ancêtres de Jésus. Cette étrangère, cette Moabite, fait partie de la généalogie du Christ parce qu'elle a été intégrée au peuple de Dieu. Elle a choisi de suivre Dieu et elle a été bénie ainsi. Et cette fidélité était connue de tous. Et son mari, Boaz, va être béni par cette épouse et par ses enfants qu'ils vont avoir. Ensuite vient la vie de mère. Du verset 15 jusqu'au verset 22. Alors, pourquoi est-ce que je me permets d'interpréter que c'est la vie de mère? D'abord parce que dans ces passages, il est fait référence au fait qu'elle produit la nourriture, le vêtement pour toute la famille, mais surtout qu'elle ne dort plus la nuit. Quand on a les jeunes enfants, on sait ce que c'est. C'est bien un témoignage que là, les enfants sont arrivés. Alors je continue la lecture dans la traduction libre. Fort tôt le matin, elle organise la journée de la maisonnée. Gérer les biens du ménage, elle s'y active aussi. Hommage peut être rendu à sa force et à sa détermination. Il est tard dans la nuit quand elle finit le bilan de sa journée. Jamais ses mains ne se relâchent pour être à l'œuvre dans la maison. Largement, elle fait profiter le démuni de ses biens. Mais avant tout, sa famille est pourvue par tous les temps. Noblement vêtue elle-même, elle a d'abord équipé son foyer. Elle se réveille alors qu'il fait encore nuit et les soins de sa famille et des pauvres occupent la majeure partie de son temps. Maintenant que les enfants sont là, il est temps d'instruire les enfants dans le chemin qu'ils doivent suivre. Proverbe 22, verset 6. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Cette mère, à travers son comportement, les soins qu'elle fait, les priorités qu'elle donne, donne l'instruction par l'exemple à ses enfants. Et ainsi, il ne s'en détournera pas. C'est le désir des parents de confier leur enfant dans les voies du Seigneur. Là encore, je prendrai un autre exemple. L'exemple d'Anne et l'enfant Samuel. Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle était bien triste. Mais elle a prié l'Éternel pour avoir un enfant. Elle a fait un vœu. Et on voit dans 1 Samuel, chapitre 1, au verset 27, elle dit la chose suivante. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Au chapitre 2, verset 18, Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel » et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Elle enfanta trois fils et deux filles, et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. La mère de Samuel est d'abord une mère fidèle envers l'Éternel. Avec son mari, il venait tous les ans au temple offrir des sacrifices. Certes, c'était un commandement, mais tous les Israélites ne le faisaient pas. Et Elkana et sa femme venaient tous les ans offrir des sacrifices. Ils avaient cette fidélité à l'Éternel. Et elle a voulu continuer. Oula. Elle a voulu continuer son service. Elle a continué à avoir confiance en l'Éternel en donnant son premier fils, le seul qu'elle avait, qu'elle a tardé à avoir. Eh bien, elle a donné pour le service de l'Éternel au temple. Enfin, au tabernacle. Et c'est cette fidélité qui va être reconnue et qu'Élie va bénir. Et elle sera encore plus bénie à travers cette fidélité. On peut voir aussi que cette éducation est généralement associée à l'hospitalité. On le voit un peu plus tard avec la Tsunamite qui reçoit régulièrement Élisée dans sa maison. Et lorsque cette Tsunamite va avoir un fils, ce fils va à un moment mourir et Élisée va le ressusciter. Et il va le faire parce qu'il sait que cette femme a confiance en l'Éternel et qu'elle a pratiqué l'hospitalité envers Élisée. Il lui avait créé une chambre pour laquelle il pouvait venir régulièrement. À chaque fois qu'il était de voyage dans la région, il pouvait venir se reposer dans cette chambre qu'elle avait spécialement confectionnée pour lui. Et cette femme était pleine de foi. Quand son fils va mourir, elle va aller chercher Élisée sans dire à personne que son fils était mort parce qu'elle avait confiance qu'Élisée allait pouvoir faire quelque chose. Ce sont des qualités de ses épouses, de ses mères, qui montrent le chemin à leur enfant. Alors certes, si on lit l'ensemble de ce passage, on se rend compte que ce sont principalement des tâches ménagères, mais c'est le contexte de l'époque. Faire les vêtements, faire les repas. Mais il n'y a pas que ça. Parce que elle a quand même acheté un champ et planté une vigne. Et je pense pas que c'était que pour faire du vin pour son mari. Ou alors, ça aurait été peut-être un peu beaucoup. Donc c'était certainement aussi pour des activités commerciales. C'est-à-dire que cette mère, non seulement s'occupait de toute sa maison et des tâches ménagères, mais elle continuait à avoir une activité financière pour la famille. Certainement une activité complémentaire, ce n'était pas l'activité principale de la famille, c'était l'époux qui le faisait. Mais il n'est pas interdit à une femme d'avoir une activité, loin de là. En revanche, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a aucun repos ou loisir qui n'est mentionné. Et là, nous avons de quoi prendre des leçons, autant pour les femmes que pour les hommes. N'est-ce pas ? On continue ensuite sa vie de Nivide, lorsque les enfants ont quitté la maison, du verset 23 au verset 28. Je continue la relecture dans une autre version libre. On respecte son mari quand il siège avec les notables. Patiemment, elle tisse, elle confectionne et elle vend sa marchandise. Qu'elle est forte et digne d'estime, qu'elle est confiante en l'avenir. Rien d'autre que sagesse et bonté ne sort de sa bouche. Surveillant la bonne marche de sa maison, elle s'active. Tous ses enfants disent du bien d'elle et son mari fait son éloge. On peut penser effectivement que c'est une partie un peu plus avancée de sa vie, ne serait-ce que parce que son mari siège parmi les anciens de la ville. Il a commencé à avoir une position un peu plus élevée. Donc on est à un stade plus avancé du couple. Et la première chose que on remarque, eh bien, elle retourne à son ancienne profession de commerçante, commerçante prospère. Cette partie et entouré de la reconnaissance de son époux par rapport à sa femme. On respecte son mari, on a confiance en son mari, parce qu'il siège parmi les anciens à la porte, mais c'est par rapport à sa femme que cette confiance, cet honneur est donné à son mari. En tout cas, c'est ce qui est dit. Et puis, le verset 28, son mari fait son éloge de sa femme. Ainsi, dans cette partie-là, la femme et le mari ne font plus qu'un. Le mari siège par la reconnaissance de sa femme, il fait l'éloge de sa femme continue à avoir une activité, son mari aussi probablement, même s'il n'en est pas question. Ils sont tous les deux étroitement liés. Ça me fait encore penser à un autre couple dans la Bible, à Aquilas et Priscilla, ou Prisca, dans le Nouveau Testament. Ce couple est toujours cité ensemble, tantôt Prisca d'abord, tantôt Aquilas, mais on parle toujours de Prisca et Aquilas, ou Aquilas et Prisca, ou Priscilla. On sait que ce couple travaillait ensemble à la confection de tentes, comme Paul, et qu'ils étaient actifs dans l'église, au point d'avoir risqué leur vie pour Paul, et qu'ils étaient hospitaliers, ils recevaient chez eux, notamment l'église, qui se réunissait dans leur maison, dans leur maison peut-être au pluriel, en tout cas ils ont été à plusieurs endroits, à Éphèse, à Rome, Corinthe, ils étaient probablement aisés. On ne sait pas s'ils avaient des maisons à chaque endroit, mais en tout cas, c'était plutôt un couple aisé, a priori. On peut lire en Actes 18, verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Plus loin, au verset 24, donc c'est beaucoup plus tard, et il y a un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux, ils lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Et comme ils voulaient passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent, ils écrivirent aux disciples de bien les recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. On voit aussi plus tard, en 1 Corinthiens 16, verset 19, que les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Donc on voit qu'ils avaient aussi l'église dans leur maison. Encore un autre moment. Ce couple est très actif. On voit que lorsqu'ils voient quelqu'un qui connaît Dieu, mais imparfaitement, qu'est-ce qu'ils font? Ils le reçoivent. Ils le prennent, ils l'emmènent chez eux pour partager la parole, mais c'est l'hospitalité. C'est l'occasion de l'hospitalité pour le recevoir et de lui partager la parole. Et ils vont tellement bien le faire que Apollos va devenir un fervent défenseur du Christ. On a vu, ils ont défendu Paul, au risque de mourir pour eux. Ils ont reçu Paul, ils lui ont donné du travail, puisqu'ils avaient le même travail. Donc ils étaient travailleurs, mais ils étaient aussi actifs pour le Seigneur. Ils servaient le Seigneur activement. Et c'est une de leurs caractéristiques, c'est cette confiance en Dieu. On ne fait pas mention de leur richesse, on ne fait pas mention de ce qu'ils avaient. On fait mention de leur hospitalité, de leur service pour le Seigneur, de leur confiance en Dieu. Et c'est ça qui est le plus important. On a encore un autre exemple avec Lydie. Alors même si Lydie, on ne sait pas quelle était sa position. Est-ce qu'elle était veuve? Est-ce qu'elle était vieille fille, n'ayant jamais eu de mari? En tout cas, Lydie avait une position parmi les femmes, a priori un petit peu au-dessus. On voit dans Actes chapitre 16, verset 13, le jour du sabbat, nous nous rendîmes, donc c'est Paul et Silas, hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, est une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Et un peu plus tard, au verset 40, alors que Paul et Silas ont été emprisonnés, ils sortent de prison. Et quand ils furent sortis de prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Ce dernier verset peut nous laisser penser que, du coup, l'Église commençait à se réunir chez Lydie, puisque les frères étaient présents chez Lydie. Alors, on ne sait pas si elle était mariée, puisqu'il n'y a pas de mention de son mari. Personnellement, mais c'est ma propre interprétation, je pense qu'elle était peut-être veuve de longue date. En tout cas, il s'agit d'une femme qui a ces trois caractéristiques. Elle craignait Dieu. Elle était commerçante. Et elle pratiquait l'hospitalité. Cette femme vertueuse, en tout cas peut-être du fait de l'âge, et je parle de la femme vertueuse de Proverbe, hein, à la fin de sa vie, elle semble avoir un peu moins d'activité physique et plus d'instruction. Ce qu'on voit au verset 26 et 27, où elle voit qu'elle donne, elle ouvre sa bouche avec sagesse, la bonté est sur sa langue. Elle surveille les voies de sa maison et ne mange pas le pain de la paresse. Donc elle continue à être active puisqu'elle ne mange pas le pain de la paresse. Mais on la voit moins dans l'activité, elle est plus dans les instructions. C'est le rôle de l'âge. Elle peut peut-être moins faire de choses, mais tout ce qu'elle peut faire, elle continue à le faire. Elle n'est pas paresseuse. Elle continue à montrer cet exemple-là. Mais par-dessus tout, c'est son témoignage et son attachement à Dieu qui caractérise cette fin de vie. De toute sa vie, c'est la caractéristique de la femme vertueuse, c'est d'être attachée à Dieu. Et finalement, ce que doit rechercher le jeune homme lorsqu'il cherche son épouse, il doit rechercher premièrement une épouse qui est attachée à vouloir servir le Seigneur dans tous les moments de sa vie, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, dans l'éducation des enfants. On doit rechercher une femme qui craigne Dieu. Et si elle craint Dieu, bah, tout le reste va en découler. Et donc, en conclusion, les trois derniers versets. Unique, oui, unique tu es, déclare-t-il, tu vaux plus que tout autre. Voici la beauté passe, mais la femme qui honore Dieu, le respect l'ennoblit. Y aurait-il pour elle une récompense? Certainement, car son travail est reconnu. On a pu voir, en conclusion, l'éloge de la femme vertueuse. Et cet éloge, on met l'accent sur le fait que ça ne passe pas par la beauté ou les loisirs. Très souvent, malheureusement aujourd'hui, les jeunes ne regardent que l'apparence extérieure, ce qui se voit, une jolie fille. Mais comme le dit ce verset 26, 28, pardon, 29, même, la grâce est trompeuse, 29, 30, voilà. La grâce est trompeuse et la beauté est vanité. La beauté, elle passera. Elle ne va pas durer toute la vie. Le jeune couple, lorsqu'il décide de s'unir, c'est pour une longue période, plus longue que la période où ils ont été chez papa et maman. Ça dure longtemps. La beauté, elle ne durera pas si longtemps que ça. Malheureusement, peut-être. Autant pour l'homme que pour la femme, d'ailleurs. Par contre, la confiance en Dieu, si cette épouse a donné son cœur au Seigneur, si elle a désir de suivre le Seigneur, c'est pour toute la vie. Et ça ne passera pas. C'est une valeur sûre. Et c'est cette valeur-là qui va lui donner la reconnaissance, qui va faire reconnaître son travail pour le Seigneur. Et il ne faudra pas oublier que ce proverbe n'est pas fait premièrement pour les femmes, mais d'abord pour les hommes, pour les jeunes hommes, pour bien choisir leur femme. Et bien choisir la femme, c'est choisir celle qui craint Dieu. Mais pour chacun ici, ça nous encourage à ne pas chercher des modèles uniques, passagers, comme cette femme vertueuse que on ne pourra peut-être pas atteindre, mais à rechercher l'exemple suprême. Et l'exemple que nous avons, qui est réel, peut-être pas comme cette femme vertueuse, c'est le Seigneur lui-même. L'exemple que nous avons du Seigneur sur la terre, nous avons plein de témoignages dans les évangiles. C'est une réalité. Le Seigneur, lui, a vraiment existé. Cette femme vertueuse, on ne sait pas, elle n'a probablement pas existé. Mais nous sommes appelés à imiter le Christ. Et donc vivons plus haut. Regardons à Christ et pas seulement à ces quelques exemples. Cherchons à être conformes à l'image de notre Sauveur et à aucune autre.